Il est 7h28 minutes. La ville de Beyrouth au Liban a été secouée hier par deux explosions d'une violence extrême qui ont provoqué des scènes de dévastation sur plusieurs kilomètres autour du lieu de la déflagration. Ça fait au moins 100 morts et 4000 blessés. C'est le dernier bilan sur la scène internationale. Ça a semé, bien sûr, la panique dans la capitale libanaise. Une déflagration qui s'est produite dans la zone portuaire qui abrite des bâtiments où 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient entreposées. On va parler immédiatement à Fabrice de Pierrebourg, qui est journaliste d'enquête, collaborateur chez nous 98.5, qui a voyagé à plusieurs reprises au Liban. D'ailleurs, il y était en novembre dernier. Bonjour Fabrice.
Bonjour Louis.
Alors, évidemment, ça a été hier, ce sont des images épouvantables qu'on a vues, la puissance de cette déflagration. Qu'est-ce qu'on sait au juste de l'origine de cette explosion?
Ben, disons que tout le monde s'accorde pour dire que l'explosion a eu lieu dans un entrepôt qui contenait, comme tu disais, une somme vraiment colossale de nitrate d'ammonium, qui est un composant qui peut rentrer dans la fabrication des engrais, mais aussi utilisé pour des explosifs. Et ça a provoqué, il y a eu d'abord une première explosion.
Oui.
On a parlé de feux d'artifice, effectivement, ça a l'air d'être confirmé aussi, c'est qu'il y avait un bâtiment à côté où il y avait des feux d'artifice. C'est pour ça que sur une des vidéos, on voit tout un tas de petites explosions primaires. Et ça a engendré l'explosion principale. Et effectivement, les images, tous ceux qui ont vu les images, sont vraiment impressionnantes. C'est une dévastation. Beyrouth, c'est pas une grande ville, hein. Ça fait à peu près 20 km². Imaginez si ça avait eu lieu dans le port de Montréal. Et le port est situé vraiment au pied, évidemment, de la vieille ville. Puis c'est une ville qui avait été vraiment dévastée par la guerre qui a eu lieu de 1975 à 90. Et depuis, il y avait des travaux pharaoniques qui avaient été entrepris pour la restaurer.
Ouais.
Et toute la vieille ville, d'ailleurs, avait été refaite de façon magistrale. Moi, j'y suis allé, effectivement, la dernière fois, au mois de novembre. Et c'est une ville qui essayait de reprendre un peu son souffle. Mm-hmm. Mais c'est un pays qui est au bord du chaos économique. Je veux dire, c'est... Louis, on disait avant que le Liban puis Beyrouth, c'était la Suisse ou le Monaco du Moyen-Orient. Maintenant, c'est quasiment le Venezuela du Moyen-Orient. C'est un pays qui est en banqueroute, crise économique terrible, la monnaie a perdu 80% de sa valeur. Le prix des aliments de base a quasiment doublé en quelques mois. Les Beyrouthins n'ont quasiment plus les moyens de s'acheter de la viande ou des produits de première nécessité. C'est vraiment, et c'est pour ça que j'avais été voir ça, moi, cet automne.
Alors, Fabrice,
c'est quelque chose qui tombe vraiment mal.
Oui, bien sûr. Reste là, je t'arrête un instant. On a au bout du fil une journaliste qui est correspondante à Beyrouth qui s'appelle Clotilde Bigot. On va juste aller voir, faire le point sur ce qui se passe là-bas. Bonjour, Madame Bigot.
Bonjour.
Alors, on comprend évidemment qu'il y a un délai, là, étant donné les circonstances. D'abord, Madame Bigot, vous êtes à Beyrouth. Racontez-nous comment vous avez vécu ces explosions-là hier. Où étiez-vous quand c'est survenu?
Alors, moi, j'étais chez moi hier. Je me trouve à environ 3-4 kilomètres du lieu de l'explosion. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas entendu la première, mais la deuxième, j'ai tout simplement senti tout mon appartement trembler. Moi, j'avais de la chance parce que toutes mes fenêtres étaient ouvertes, donc rien n'a explosé, mais c'est pas le cas de mes voisins. Et en fait, du coup, ce que j'ai entendu, en fait, au départ, je pensais que la terre tremblait. J'ai directement pensé à un tremblement de terre. Une seconde après, j'ai entendu la déflagration et j'ai senti le souffle. Je suis tombée par terre.
Ouais.
Et directement après, je me suis ruée sur mon balcon, j'ai vu de la fumée et tout le monde est sorti dans la rue en hurlant. C'était vraiment la panique. J'avais des voisins qui pleuraient et tout le monde s'est demandé, en fait, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en guerre?
Et là, quand vous êtes sorti, quel est le paysage que vous avez vu? Parce que j'imagine, parce que vous êtes dans un rayon quand même assez restreint autour du port, là, et il y a eu des dommages qui ont été très importants à plusieurs kilomètres du site de l'explosion. Ça avait l'air de quoi à l'extérieur?
Alors, hier soir, lorsque je suis allée vers le port de Beyrouth, c'était une scène absolument apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y avait des maisons qui s'étaient écroulées sur des personnes. Moi, autour de chez moi, donc quand même à 4 kilomètres, dans une zone très résidentielle, il y avait du verre absolument partout, 1 centimètre de verre par terre. Et lorsque je suis montée sur une des plus grandes places de Chaffier, qui est en hauteur et donc qui a subi ce souffle de plein fouet, la place Sassine à Achrafieh, j'ai vu de nombreuses personnes qui étaient blessées, qui, en fait, marchaient sans vraiment avoir de but. Et aujourd'hui, lorsque je suis retournée à cette place, j'ai vu tout simplement toutes les personnes qui ont des magasins, toutes les personnes qui travaillent dans le quartier, qui étaient à pied d'œuvre, qui étaient avec balai, seau à la main, en train de pousser le verre, de le mettre dans des bacs pour les mettre à la poubelle.
Donc, il y a comme une espèce de résilience. On est déjà en train d'essayer de se relever de ce drame terrible.
Oui, alors malheureusement, il y a aussi le côté économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de se relever ou pas. Si on ne se relève pas, on n'a pas de financement de la part de l'État. Donc, les personnes que j'ai vu, en fait, ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'il y avait des personnes qui m'ont dit tout simplement, moi, j'y crois plus. Demain, j'y crois plus. Je suis là parce que j'ai mon magasin et que c'est mon travail et je vais continuer parce que je n'ai pas le choix. Mais j'ai aussi vu des personnes qui me disaient, bon, ben voilà. Cette explosion, elle a touché tout Beyrouth. Avant, généralement, c'était certaines communautés. Mais maintenant, on est tous ensemble et on va tous travailler ensemble pour un engouement meilleur. Mais la plupart de la population libanaise reste assez négative et n'a pas énormément d'espoir en demain ou en après-demain.
Ouais. Et là, est-ce qu'on a un dernier bilan officiel, en fait? Je sais que, bon, le gouvernement a décrété une journée de deuil national aujourd'hui. Quel est le bilan que l'on fait sur le coût humain de cette tragédie?
Alors, le dernier bilan, c'est celui de la Croix-Rouge, qui fait état d'une centaine de morts et de plus de 4000 blessés. Mais j'ai entendu qu'il y avait plus de 100 personnes qui sont encore recherchées. Donc, le bilan pourrait facilement, malheureusement, doubler dans les prochaines heures ou les prochains jours.
Madame Bigot, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance dans cette épreuve. Au revoir. Clotilde Bigot est journaliste correspondante à Beyrouth. Vous comprendrez que la ligne était assez difficile. Alors, Fabrice, évidemment, il a abordé la question de l'économie à laquelle tu faisais référence tout à l'heure. Les gens là-bas sont complètement découragés.
Ben oui, puis je pense que c'est le gouverneur de Beyrouth qui a dit que pour l'instant, on estime que ça coûtera entre 3 et 5 milliards de dollars américains pour reconstruire ces zones dévastées, qui a à peu près jusqu'à 300 000 personnes qui n'ont plus de logement dans Beyrouth. Mais il n'y a plus d'argent au Liban, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un pays qui est en état de faillite, l'électricité est rationnée. Les Libanais en ont ras-le-bol. Moi, quand je suis allé en novembre, ils avaient entamé une sorte de révolution, comme ils disaient, c'était dans la rue, tout parti confondu, pour crier ce ras-le-bol-là, parce qu'ils disaient, il y en a marre de la corruption, il y en a marre de l'incompétence de nos élites, ça fait des années que ça dure, ça suffit, faut les dégager. Et il y a beaucoup de gens hier qui disaient, voilà, ce qui s'est passé hier, c'est entre autres une des conséquences de cette incompétence, cette gabegie. On a là 2700 tonnes comme ça qui traînent depuis 2013, je pense, dans le port de Beyrouth, puis personne n'a jamais rien fait. Quoi.
Donc, la thèse de l'attaque à laquelle faisait référence Donald Trump hier soir, c'est rejeté, là. Ce n'est pas retenu, en tout cas, en ce moment.
Non, en ce moment, c'est pas retenu. C'est sûr qu'on connaît pas, on va dire, l'origine on va dire, peut-être du premier incendie qui a causé cette explosion. Mais tout de suite, Louis, comme tu t'en doutes, il y a eu d'énormes rumeurs, il y a eu beaucoup de rumeurs, quoi. Il y a des gens qui ont dit, on a vu des drones au-dessus de Beyrouth. Ça doit être les Israéliens. Les Israéliens ont nié, évidemment, leur implication. Mais ça part d'événements passés récurrents. C'est-à-dire que le Liban puis Israël, c'est une guerre à n'en plus finir depuis des années, quoi. Les deux pays sont ennemis. Le parti Hezbollah, qui est le puissant parti chiite libanais, est en guerre permanente contre Israël. La semaine dernière, encore, il y a des affrontements de part et d'autre de la frontière au sud du Liban. Oui. Donc, c'est sûr que ce genre de rumeurs s'appuie sur quelque chose qui est endémique au Liban. Il y a eu une guerre terrible à l'été 2006, quand Israël a décidé de venir frapper Beyrouth, justement pour punir le Hezbollah. Ça a duré 30 jours, ça a donné lieu d'ailleurs à une évacuation, on se souviendra, massive de Canadiens qui étaient au Liban. Et puis aussi, il y a des gens qui, dans le même genre de théorie du complot, qui ont dit « Ah, attention, vendredi, il y a le tribunal spécial sur le Liban, qui est basé à La Haye, le tribunal indépendant international, qui va rendre son verdict contre 4 Libanais membres du Hezbollah qui sont accusés d'avoir participé à l'assassinat dans un attentat vraiment énorme en février 2005 à Beyrouth de l'ancien Premier ministre, Rafik Hariri, qui était un homme d'affaires multimilliardaire, qui a été tué dans un attentat, d'ailleurs, à l'ouest de l'endroit où il y a eu cette explosion, toujours au bord de mer, une grosse quantité d'explosifs, ça avait fait plus de 20 morts, au moins 200 blessés, des dégâts considérables. Et là, vendredi, on va savoir c'est quoi le verdict, en leur absence, puisque le Liban, puisque ces 4 individus n'ont jamais été livrés au tribunal, n'ont jamais été incarcérés. Donc, c'est sûr que c'est les deux théories qui disaient, c'est sûr que c'est... c'est un attentat, mais pour l'instant, il n'y a rien qui permet de confirmer ça, quoi.
Oui, exactement. Il faut peut-être mentionner que le nitrate de potassium, qui est un engrais, est un produit qui est très utilisé par les terroristes, entre autres choses, parce que on peut s'en procurer facilement et sans un pouvoir de détonation qui est énorme. Entre autres, on se souvient de l'attentat à Oklahoma City de Timothy McVeigh. C'était du nitrate de potassium.
Ouais, et puis c'est malgré tout c'est un composé chimique qui est réglementé. C'est-à-dire que au Canada, par exemple, la vente, si je me trompe pas, est sérieusement réglementée.
Ouais.
Et les gens, les distributeurs de genre de produits doivent signaler au gouvernement. D'ailleurs, il y a une page, il me semble, sur le site du gouvernement du Canada, où si les autorités, si quelqu'un cherchait à obtenir des quantités, on va dire démesurées, quoi. Si vous avez un carré avec 3 radis, 4 tomates, et que vous allez en chercher une tonne, c'est sûr que normalement, on va vous poser des questions.
Oui.
Et je pense aussi. Et non, mais. Puis c'est aussi un composé il y avait eu un complot qui avait été démantelé en juin 2006 au Canada. On avait appelé ça le groupe des 18 de Toronto. Ils voulaient faire sauter, entre autres, je pense, la tour du CN, le siège des services secrets canadiens, etc. Et ils cherchaient justement à se procurer cette substance chimique-là, quoi.
Et c'était aussi, je pense, utilisé lors du premier attentat contre le World Trade Center, là, quand on avait amené une espèce de mini-fourgonnette dans le stationnement du World Trade Center.
Dans le stationnement, oui, il me semble, tout à fait. Mais c'est pour ça que ça donnait lieu, effectivement, à toutes sortes de supputations. Mais c'est sûr que ça va être difficile de savoir qu'est-ce qui a provoqué ça, parce que il y a eu des images, vous regarderez aujourd'hui, il y a un cratère. À la place de l'entrepôt, c'est un trou, quoi, avec la mer qui est rentrée dedans.
Ouais.
Et à côté, il y avait un silo de grains qui est complètement éventré.
Ouais.
Et ça, c'est une catastrophe aussi, parce que le port de Beyrouth, c'est là où arrivent toutes les marchandises, tous les biens essentiels, le blé, effectivement, qui est un produit de première nécessité. Et il n'y a plus rien. Donc, c'est dramatique pour les Libanais, quoi.
Fabrice de Pierrebourg, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Salut, Louis.
Au revoir. Fabrice de Pierrebourg, donc, est journaliste d'enquête, collaborateur au 98.5.